Vous êtes sur RTL.
Et il est 9h. RTL Matagnès Bonfillon, Philippe Robuchon.
Bonjour Agnès.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Il vide son sac après l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Presnel Kimpembe prend la parole.
Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le défenseur parisien dit comprendre la colère des supporters au-delà de sa main qui a débouché sur le fameux pénalty en faveur de Manchester. Kimpembe parle d'une responsabilité collective. Il fait un vrai mea culpa, écoutez.
Moi aussi ça me fait mal, ça me fait même très mal. Et je ressens ce que les supporters ressentent. Mon explication, je dirais qu'on a eu beaucoup de suffisance par rapport au match aller à Old Trafford. C'était vraiment pas la même équipe du PSG. Et voilà, au match retour, ça s'est ressenti. Et on a perdu cette grinta, on va dire, et cette rage qu'on avait au match aller qui a pu faire la différence. Et je pense que c'est pas le fait d'avoir vécu les expériences passées qui font que voilà on était stressé ou quoi. Je pense que c'est vraiment par de la suffisance et parce qu'on a pris, je pense, ce match à la légère. Et ce sera vraiment une chose qui m'arrivera plus jamais, parce que avoir mal comme ça, je pense que ça y est, ça m'est trop arrivé. Pour moi, ça suffit. Je dis stop. En restant humble, on va rester affamé. Et ça, pour moi, c'est le plus important.
Presnel Kimpembe, reste à savoir comment ses propos vont être pris par le club et ses coéquipiers. Les Parisiens reprennent l'entraînement tout à l'heure au Camp des Loges.
Le loto du patrimoine version 2019, eh bien le coup d'envoi c'est demain.
La première édition a été un vrai succès. 22 millions d'euros ont été récoltés pour restaurer 269 monuments en péril. Parmi les 18 lieux qui vont figurer sur les tickets de grattage cette année et qui feront donc partie des bénéficiaires, il y a l'abbaye Notre-Dame de Sénanque. Elle est située à Gordes, dans le Vaucluse. L'édifice menace purement et simplement de s'effondrer, sachant Marion Ferrer que des moines y vivent toujours.
De l'extérieur, rien n'est visible. L'abbaye de Notre-Dame de Sénanque repose dans son vallon, entourée des champs violets de lavande. Elle tient debout depuis le XIIe siècle et pourtant.
Le côté est, si vous voulez, de l'église, qui n'est plus buté. Au plus fort, 9 cm entre le bas de la pile et le haut de la nef.
Pierre-Yves Rinquin est l'intendant de l'édifice.
Le conservateur régional des monuments historiques a demandé une étude toute simple. On s'est rendu compte, un peu abasourdi, que l'église était en train de s'effondrer. En 2 heures, l'église était fermée.
Impossible pour les 7 moines cisterciens qui vivent toujours dans les lieux de rassembler les 2 millions nécessaires aux travaux. Alors lorsque Pierre-Yves Rinquin apprend que l'abbaye bénéficiera du loto du patrimoine 2019, l'émotion est importante.
Pour nous, encore une fois, c'est inespéré. C'est des aides comme ça qui viennent à un moment donné nous redonner un peu de courage, parce que il y a quelques semaines, effectivement, on se disait avec les frères et moi-même, ça va être compliqué d'y arriver.
À ce jour, plus de 20 000 euros ont été récoltés via les cagnottes déjà mises en ligne.
Marion Ferrer pour RTL. De l'argent, il faut également que l'État en trouve pour sauver des vies. Muriel Robin a une nouvelle fois lancé un appel à l'aide hier. La comédienne très engagée contre les violences faites aux femmes participait à une marche en Seine-et-Marne en hommage à Julie Douib. Cette mère de famille était terrifiée, elle avait prévenu les autorités et pourtant elle a été abattue par son ex-compagnon la semaine dernière en Corse.
La mobilisation des gilets jaunes, eh bien, elle baisse encore.
Hier, 28 600 manifestants ont été recensés dans toute la France pour le 17e acte. C'est 11 000 de moins que la semaine dernière. Certains participants prédisent un second souffle à partir du 16 mars, après la fin du grand débat. Justement, le grand débat, le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, va faire ses premières propositions à Chartres aujourd'hui. Parmi elles, il explique à nos confrères du Parisien que les retraites modestes doivent être réindexées sur l'inflation. Les petites pensions, parlons-en.
RTL, sur la route du grand débat.
Tous les jours sur RTL, nos reporters partent sur la route du grand débat et s'arrêtent sur un sujet bien particulier. Ce matin, direction Saint-Lô, en Normandie, pour justement parler des retraités modestes. C'est un reportage de Gauthier de Lombugard.
André et Claudine, 72 et 77 ans, me reçoivent dans la salle à manger.
Bonjour monsieur, ça va bien? La santé est bonne?
Comment va?
La télé reste allumée en fond sonore, les tasses et la cafetière sont posées sur la toile cirée au motif fleuri.
Est-ce que vous voulez un café?
Le couple vit avec 1000 euros par mois, juste assez pour payer les factures et faire parfois le plein de la voiture. Face à cette galère, ils ont décidé d'enfiler un gilet jaune pour crier leur colère à Emmanuel Macron.
On nous prend pour des vaches à lait de toute façon, pour des moins que rien. Quand on l'entend parler, ah, vous sont des feignants, donc à traverser la route, ils trouveront du boulot. Oui, bien sûr.
André a enchaîné les petits boulots, rarement déclarés. Claudine s'est arrêtée de travailler très jeune. Les deux n'ont pas assez cotisé pour s'offrir une retraite confortable.
On ne peut pas partir en vacances, quoi. On n'a pas assez de sous. De payer les maisons de retraite, ce ne sera pas possible. J'espère qu'il y aura au moins mes enfants qui nous prendront en charge.
En Normandie, il faut débourser près de 2000 euros par mois en moyenne pour entrer en maison de retraite. Face à ces tarifs parfois inabordables, la mairie de Caen propose une alternative, la colocation senior.
Je vais vous faire visiter ma chambre.
Un loyer de 350 euros par mois pour Eric, 71 ans, et Marie-Thérèse, 68 ans. Cette grand-mère a vendu la maison familiale pour venir s'installer ici il y a 2 ans.
C'est un gain inespéré. Avec le loyer que je paye, il me reste quand même 1000 euros pour vivre. Là, je vais pouvoir me payer des petits voyages, enfin faire des tas de choses. Hein. C'est que du bonheur.
Une initiative portée par la ville de Caen et son maire, Joël Brunand.
Deux dans un appartement, vous amortissez une partie des charges. Hein. Donc c'est aussi une manière de redonner en quelque sorte du pouvoir d'achat à la personne.
Au bout du couloir, la troisième chambre reste vide. Le concept ne séduit pas. Une question de génération, selon les deux colocs. Eric et Marie-Thérèse gardent espoir. Un nouveau compagnon viendra bientôt sonner à l'interphone.
Le reportage de Gauthier Delon-Bugard en Normandie pour RTL. Et il est à retrouver, ce reportage comme tous les autres, sur le site RTL.fr.
Avec les photos qui accompagnent, évidemment, comme d'habitude. Il est 9h06 sur RTL. Dans un instant, la suite du journal. On va au Venezuela, toujours dans le noir.
9h09, suite de RTL Matin, Agnès Bonfillon, Philippe Robuchon.
Au Venezuela, Agnès, la coupure d'électricité géante a fait au moins 15 morts.
Oui, des malades qui n'ont pu faire leur dialyse. Le courant est revenu dans la plupart des quartiers de Caracas, mais cet épisode ne fait qu'augmenter la colère des habitants. Ils sont d'ailleurs de nouveau descendus dans la rue. D'un côté, les partisans du chef de l'État, Nicolas Maduro. De l'autre, ceux du président autoproclamé Juan Guaido. Le reportage sur place d'Adrien Galpin.
À cause de la grande coupure de courant qui paralyse le pays, les manifestants ne sont pas si nombreux ce samedi. Mais tous sont très remontés après de longues heures sans électricité, notamment Antonio qui habite Petare, le plus grand bidonville du pays.
Tous les produits dans le frigidaire sont sur le point de pourrir. C'est lamentable. J'aimerais que ces gens s'en aillent d'eux-mêmes, car ici on ne veut pas de mort.
Il accuse le gouvernement de ne plus entretenir le réseau électrique, mais sur l'avenue Libertador où se rassemblent les chavistes, c'est l'opposition qui est pointée du doigt. Namara pense que c'est l'œuvre d'agents nord-américains.
Maduro ne va pas couper le courant, qu'est-ce qu'il y gagne? Non, je suis sûr que c'est un sabotage.
Pourtant, la haine de Nicolas Maduro est particulièrement vive sur l'avenue Victoria, point de ralliement de la manifestation convoquée par Juan Guaido. D'autant que des policiers empêchent les manifestants d'investir l'avenue, ils ont confisqué la scène où devait avoir lieu le discours de l'opposant, mais les manifestants, très nombreux, ont tout de même réussi à passer. Certains barrages, explique Carlos, un père de famille.
Nous remercions la police nationale bolivarienne car ils ont désobéi, levé la barrière et nous ont laissé passer pacifiquement.
Juan Guaido finit lui aussi par arriver, se hisse sur le toit de son véhicule pour haranguer la foule au mégaphone. La plupart n'entendent rien mais ils hurlent quand même, trop contents d'avoir pu se réunir malgré tout.
Le reportage d'Adrien Galpin à Caracas pour RTL. En Algérie, le pouvoir tente d'affaiblir la contestation. Cela fait 3 semaines que des manifestations ont lieu contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Cette fois, le gouvernement vient d'avancer les vacances scolaires, de les allonger. Objectif, faire rentrer les étudiants chez eux, les éloigner des campus.
On passe au sport.
Et on commence par les résultats, Agnès, de la 28e journée de football de Ligue 1.
À quelques jours de son match à Barcelone en Ligue des Champions, Lyon piétine, se contente d'un match nul à Strasbourg, 2-2. L'OL qui en plus n'est pas certain de pouvoir compter sur son défenseur central mercredi. Marcelo s'est blessé à la cuisse. Match nul hier entre Monaco et Bordeaux, 1-1. Entre Dijon et Reims également, sur le même score. Victoire pour Amiens face à Nîmes, 2-1. Le football génère de plus en plus d'argent. Budget des clubs, droits télé, transferts, salaires, les chiffres donnent parfois le tournis et ce n'est pas toujours très bien vu. Le baromètre d'Oxa pour Groupama et RTL cette semaine se penche sur le sujet. pour certains, ça va trop loin, Nicolas Georgerot.
Oui, l'argent, élément incontournable dans le football actuel. 64% des Français interrogés estiment qu'il a pris une place beaucoup plus importante depuis quelques années. Des clubs de plus en plus structurés qui attirent également des investisseurs étrangers, qu'ils soient qataris, russes ou américains. Une tendance que n'apprécient pas forcément les Français. 69% considèrent que c'est une mauvaise chose. Chez les amateurs de foot, en revanche, une personne sur deux y est favorable. C'est en augmentation de 6 points par rapport à l'année dernière. Quant au naming du Parc des Princes, 57% des personnes interrogées sont contre. Enfin, le fair play financier instauré par l'UEFA il y a quelques années pour réguler les dépenses et les budgets des clubs et éviter les déséquilibres, c'est un dispositif qui peine à convaincre. 57% des Français estiment qu'il n'est pas efficace.
Nicolas Georgerot pour RTL. On passe au rugby, au tournoi des Six Nations. Victoire des Françaises qui surclasse l'Irlande 47-17. Espérons que ce dimanche soit de bon augure également pour le 15 de France masculin. Les Bleus jouent à Dublin, ce sera à 16h. Sachez que le Pays de Galles est toujours en lice pour le Grand Chelem après avoir battu l'Écosse 18-11. L'Angleterre a littéralement étrié l'Italie 57-14.
Une partie de pétanque, ça fait plaisir.
Bien sûr que ça fait plaisir, une partie de pétanque, et ce n'est pas qu'un sport d'homme, Agnès.
Oh que non, il y a même des tournois 100% féminins. Hier, dans le quartier Saint-André à Marseille, plus de 130 boulistes âgés de 15 à 77 ans se sont donné rendez-vous, et quand les femmes jouent, les hommes se transforment en supporters. Logique, Hugo Hamelin.
Et oui, des hommes, il y en a quelques-uns, les maris, les fistons, qui encouragent, coachent et servent même le déjeuner aux demoiselles de la pétanque.
Ça, c'est merveilleux. Il n'y a rien de plus beau sur la terre que de se faire servir par un homme. Franchement.
Alors, à Marseille, la pétanque, c'est du sérieux. Chez les hommes, d'habitude, ça crie pas mal et ça triche un peu. Et chez les filles, comment ça se passe?
C'est beaucoup plus énervé que les garçons. Beaucoup plus. Attendez, on laisse rien passer, nous. Non, 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 on se laisse pas faire, on laisse rien passer. Mais bon, c'est quand même toujours un plaisir. Dès qu'on est sur un terrain de boule, il y a des vibrations qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Ah, les femmes sont jalouses et méchantes. Tout à l'heure, avant de commencer la partie, là, la dame me dit oh, « moi, j'ai pas envie de jouer, je laisse la partie, tu as gagné. » C'est une salope. Elle a joué, on a perdu. On a perdu 10 à 13, mais ça ne fait rien. Maintenant, moi, je regardais mes amis jouer au boule, puis voilà, il reste l'après-midi jusqu'au ce soir.
Cochonnet, lunettes de soleil et verre de rosé à Marseille ce week-end, c'est déjà l'été.
La vie, tu la manques, change ton tir, une partie de pétanque, ça fait plaisir.
Le reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL, effectivement, ça donne envie d'y être.
Ça donne envie. Merci Agnès pour cette info et toutes les autres.